Chapitre 7. La maison bonne fille. L'évêque Thierry d'Hirson, de son vivant, possédait à Paris, dans la rue Mauconseil, un hôtel jouxte celui de la comtesse d'Artois, et qu'il avait agrandi en achetant la maison d'un de ses voisins nommé Julien Bonnefille. Ce fut cette maison, reçue en héritage, que Béatrice proposa à Robert d'Artois comme abri de leur rencontre. La promesse de s'ébattre en compagnie de la dame de parage de Mahô, à côté de l'hôtel de Mahô, dans une maison payée sur les deniers de Mahô et qui, de surcroît, gardait le nom de maison Bonnefille, il y avait en tout cela de quoi satisfaire le penchant naturel de Robert pour la farce. Le sort organise parfois de ces amusements. Néanmoins, Robert, dans les débuts, n'en usa qu'avec une extrême prudence. Bien qu'il fût lui-même propriétaire, dans la même rue, d'un hôtel où il ne résidait pas, mais qu'il venait visiter de temps à autre, il préférait ne se rendre à la maison Bonnefille que le soir tombé. En ces quartiers proches de la Seine, où les voies étroites étaient encombrées d'une foule dense et lente, un seigneur tel que Robert d'Artois, de stature si reconnaissable et escorté d'écuyers, ne pouvait passer inaperçu. Robert attendait donc la chute du jour. Il se faisait toujours accompagner de gilets de Nel et de trois serviteurs, choisis parmi les plus discrets et surtout les plus forts. Gilet était la cervelle de cette garde, et les trois valets à point d'assommeur se plaçaient aux issues de la maison Bonnefille, sans livrer, comme de quelconque badaud. Au cours des premières entrevues, Robert refusa de boire le vin aux épices que Béatrice lui offrait. « La donzelle peut bien avoir été chargée de m'enherber, » se disait-il. Il ne se dévêtait qu'à regret de son surcot doublé d'une fine maille de fer et, tout le temps du plaisir, gardait l'œil vers le coffre où il avait posé sa dague. Béatrice se délectait de lui voir pareille crainte. Ainsi, elle, petite bourgeoise d'Artois, fille non mariée à 30 ans passés et qui avait roulé dans toutes sortes de draps, pouvait inspirer crainte à un tel colosse et un si puissant pair de France. L'aventure avait pour Béatrice, plus encore que pour Robert, tout le piment de la perversité. Dans la maison de son oncle l'évêque, et avec le mortel ennemi de Madame Mahô, à laquelle, pour excuser ses absences, Béatrice devait compter sans cesse de nouvelles fables. La Divion était réticente, elle ne céderait pas d'un coup, et ce serait folie que de lui verser forte somme pour laquelle elle pourrait ne vendre qu'un gros mensonge. Non, il fallait la voir souvent, lui extirper, bribe par bribe, les intrigues du mauvais Monseigneur Robert, lui faire livrer le nom des témoins de complaisance, et ensuite vérifier ses dires, aller trouver le sieur Juvigny au Louvre, ou Michelet Guéroux, le valet du notaire Tesson. Ah, tout cela n'allait pas sans peine, ni temps, ni monnaie. Il conviendrait, madame, de donner une pièce d'étoffe à ce clerc pour sa femme. Sa langue se déliera. M'autorisez-vous à vous prendre quelques livres ? Et le plaisir de regarder Madame Mahô dans les yeux, de lui sourire et de penser « Il y a moins de 12 heures, je m'offrais toute dépouillée à messire votre neveu. » À voir sa demoiselle de parage tant se dépenser à son service, Mahô la rabrouait moins, lui montrait de nouveau de l'affection et ne lui ménageait pas les gâteries. Pour Béatrice, c'était une occasion doublement exquise que de jouer Mahô tout en s'appliquant à conquérir Robert. Car on ne saurait prétendre avoir conquis un homme parce qu'on a passé 1 heure avec lui au même lit, pas plus qu'on est le maître d'un fauve parce qu'on l'a acheté et qu'on l'observe à travers les grilles de la cage. La possession ne fait pas le pouvoir. On est le maître, vraiment, que lorsqu'on a si bien travaillé le fauve qu'il se couche à la voie, rentre les griffes et qu'un regard lui sert de barreau. Les défiances de Robert étaient pour Béatrice comme autant de griffes allumées. En toute sa carrière de chasseresse, elle n'avait jamais eu l'occasion de piéger si grand gibier et réputé si féroce que c'en était proverbe. Le jour où Robert consentit à accepter de la main de Béatrice un gobelet de grenache, elle connut sa première victoire. J'aurais pu donc y mettre du poison et il l'aurait bu. Et quand une fois il s'endormit, pareil à l'ogre des fabliaux, alors elle éprouva le sentiment du triomphe. Le géant avait au cou une démarcation nette, là où se fermait la robe ou la cuirasse. La teinte brique du visage tanné par le grand air s'arrêtait brusquement, et au-dessous commençait la peau blanche, tavelée de taches de sang et couverte aux épaules de poils roux comme la soie des porcs. Cette ligne semblait à Béatrice la marque toute tracée pour le tranchant d'une hache ou le fil d'un poignard. Les cheveux couleur de cuivre, frisés en rouleaux sur les joues, s'étaient déplacés et laissaient apparaître une oreille petite, délicatement ourlée, enfantine, attendrissante. On pourrait, pensait Béatrice, dans cette petite oreille, enfoncer un fer jusqu'à la cervelle. Robert se réveilla en sursaut, au bout de quelques minutes, avec inquiétude. « Eh bien, monseigneur, je ne t'ai pas tué, » dit-elle en riant. Son rire découvrait une gencive rouge sombre. Comme pour la remercier, il relança au jeu. Il lui fallait avouer qu'elle l'y secondait bien. Inventive, sournoise, peu ménagère de soi, jamais rechigneuse, et criant fort sa joie. Robert, qui, pour avoir troussé toutes sortes de cottes, soit lin ou chanvre, se croyait grand maître Henri Baudry, devait reconnaître qu'il avait trouvé là plus forte partie. « Si c'est au sabbat, ma petite mie, lui disait-il, que tu as appris toutes ces galanteries, on devrait davantage y envoyer Pucelle. » Car Béatrice lui parlait souvent du sabbat et du diable. Cette fille lente et molle en apparence, ondoyante de démarche, traînante en sa parole, ne révélait qu'au lit sa vraie violence, de même que son discours ne devenait rapide et animé que lorsqu'il s'agissait de démons ou de sorcellerie. « Pourquoi donc ne t'es-tu jamais mariée ?» lui demandait Robert. « Les époux n'ont pas dû manquer à se proposer, surtout si tu leur as donné tel avant-goût du mariage. » « Parce que le mariage se fait à l'église, et que l'église m'est mauvaise. » Agenouillée sur le lit, les mains aux genoux, l'ombre au creux du ventre, Béatrice, les cils bien ouverts, disait « Tu comprends, monseigneur, les prêtres et les papes de Rome et d'Avignon n'enseignent pas la vérité. Il n'y a pas un seul Dieu, il y en a deux, celui de la lumière et celui des ténèbres. » Le prince du bien et le prince du mal. Avant la création du monde, le peuple des ténèbres s'est révolté contre le peuple de la lumière, et les vassaux du mal, pour pouvoir vraiment exister, puisque le mal est le néant et la mort, ont dévoré une partie des principes du bien. Et parce que les deux forces du bien et du mal étaient en eux, ils ont pu créer le monde et engendrer les hommes, où les deux principes sont mêlés et toujours en bataille, et où le mal dirige, puisque c'est l'élément du peuple d'origine. Et l'on voit bien qu'il y a deux principes, puisqu'il y a l'homme et la femme, faits comme toi et comme moi de manière diverse, poursuivait-elle avec un sourire avide. Et c'est le mal qui chatouille nos ventres et les pousse à se joindre. Or, les gens dans lesquels la nature du mal est plus forte que la nature du bien doivent honorer Satan et faire pacte avec lui pour être heureux et triompher en leurs affaires. Et ils ne doivent rien faire pour le Seigneur du bien qui leur est adverse. Cette étrange philosophie qui puait fortement le soufre et où traînait des bribes mal digérées de manichéisme, d'impurs éléments de doctrine cathare, mal transmis et mal compris, avait plus d'adeptes que les gens au pouvoir ne le croyaient. Béatrice ne représentait pas un cas isolé, mais pour Robert, dont l'esprit n'avait jamais effleuré ce genre de problème, elle entr'ouvrait les portes d'un monde mystérieux. Il était surtout fort admiratif d'entendre de tels raisonnements dans la bouche d'une femme. « Tu as plus de cervelle que je n'aurais cru. Qui donc t'a appris tout cela ?»«
D'anciens templiers, » répondit-elle.
« Ah ! Les templiers !» Certes, ils connaissaient beaucoup de choses. Vous les avez détruits. Pas moi! Pas moi! S'écria Robert. Philippe le Bel et Enguerrand, les amis de Mao. Mais Charles de Valois et moi-même, nous étions opposés à leur destruction.
Ils sont restés puissants par magie. Tous les maux survenus depuis lors au royaume sont arrivés à cause du pacte que les Templiers ont fait avec Satan, parce que le pape les avait condamnés.
Les malheurs du royaume, les malheurs du royaume! Disait Robert peu convaincu. Certains ne sont-ils pas l'œuvre de ma tante plutôt que celle du diable? Car c'est elle qui a expédié mon cousin Hutin et son fils ensuite. N'y aurais-tu pas mis un peu la main?
Il revenait souvent sur cette question, mais chaque fois, Béatrice esquivait. Ou bien elle souriait, vaguement, comme si elle n'avait pas entendu, ou bien elle répondait à côté.
Mao ne sait pas. Elle ne sait pas que j'ai fait pacte avec le diable. Sûrement, elle me chasserait.
et elle repartait aussitôt d'un débit rapide sur ses sujets favoris, sur la messe vaine, l'opposé, la négation de la messe chrétienne, qu'on devait célébrer à minuit dans un souterrain et près d'un cimetière de préférence. L'idole avait une tête à deux visages. On se servait d'hosties noires que l'on consacrait en prononçant trois fois le nom de Belzébuth. Si l'officiant pouvait être un prêtre renégat ou un moine défroqué, cela n'en valait que mieux. Le Dieu d'en haut est failli. Il a promis la félicité et ne donne que malheur aux créatures qui le servent. Il faut obéir au Dieu d'en bas. Tiens, monseigneur, si tu veux que les pièces de ton procès soient renforcées par le diable, fais-les traverser d'un fer rouge dans le coin de la feuille et qu'il y demeure un trou marqué d'un peu de brûlure. Ou bien encore, souille la page d'une petite tache d'encre étalée en forme de croix où la branche du haut finisse comme une main. Je sais comment il faut faire. Mais Robert, lui non plus, ne se livrait pas tout à fait. Et bien que Béatrice dût être la première à savoir que les pièces qu'il se targuait de posséder étaient des faux, jamais il ne se serait laissé aller à en convenir. Si tu veux prendre tout pouvoir sur un ennemi et qu'il agisse à sa perte par volonté maligne, lui confia-t-elle un jour, il faut que tu le fasses frotter aux aisselles, au revers des oreilles et à la plante des pieds d'un onguent fait de fragments d'hostie et de poudre d'os d'un petit enfant sans baptême. Cela mêlé à du rut d'homme répandu sur le dos d'une femme pendant la messe vaine et du sang mensuel de cette femme.
« Je serais plus sûr, répondit Robert, si, à une bonne ennemie que j'ai, on versait la poudre à faire mourir les rats et les bêtes puantes. »
Béatrice feignit de ne pas réagir, mais l'idée lui fit passer des ondes chaudes sous la peau. Non, il ne fallait pas qu'elle répondît tout de suite à Robert. Il ne fallait pas qu'il sût qu'elle était déjà consentante. Est-il meilleur pacte qu'un crime pour lier à jamais deux amants? Car elle l'aimait. Elle ne se rendait pas compte que, cherchant à le piéger, c'était elle qui entrait en dépendance. Elle ne vivait plus que pour le moment où elle le rejoignait, pour ne vivre ensuite que de se souvenir et à nouveau d'attendre. Attendre ce poids de 200 livres et cette odeur de ménagerie que Robert dégageait, surtout dans les bas amoureux, et ce grondement de félin qu'elle lui tirait de la gorge. Il existe plus de femmes qu'on ne pense qui ont le goût du monstre. Les nains de la cour, Jean le Fol et les autres, le savaient bien qu'ils ne pouvaient suffire à leur conquête. Même une anomalie accidentelle est objet de curiosité et, partant, de désir. Un chevalier borgne, par exemple, rien que pour l'envie de soulever le carreau d'étoffe noire qui lui couvre une partie du visage. Robert, à sa manière, tenait du monstre. La pluie d'automne s'égouttait sur les toits. Les doigts de Béatrice s'amusaient à suivre les renflements d'une panse gigantesque. « D'abord, toi, monseigneur, disait-elle, tu n'as besoin de rien pour obtenir ce que tu veux, ni besoin d'être instruit d'aucune science. Tu es le diable lui-même. Le diable ne sait pas qu'il est le diable. » Il rêvassait, repu, le menton en l'air, écoutant cela. Le diable a des yeux qui brûlent comme la braise, d'immenses griffes au bout des doigts pour lacérer les chairs, une langue partagée en deux, et un souffle de fournaise s'échappe de sa bouche. Mais le diable pouvait avoir aussi le poids et l'odeur de Robert. Elle était amoureuse de Satan. Elle était la femelle du diable, et on ne l'en séparerait jamais. Un soir que Robert d'Artois, venant de la maison Bonnefille, rentrait à son hôtel, sa femme lui présenta le fameux traité de mariage, enfin rédigé, et auquel il ne manquait plus que les sceaux. Robert, l'ayant examiné, s'approcha de la cheminée et, d'un geste négligent, mit le tisonnier dans les braises. Puis, quand la pointe fut rouge, il en troua le coin d'une des feuilles qui se mit à grésiller. « Et que faites-vous, mon ami ?» demanda Madame de Beaumont.
« Je veux seulement, dit Robert, m'assurer que c'est du bon vélin. »
Jeanne de Beaumont considéra un instant son mari, puis lui dit doucement, presque maternelle,
« Vous devriez bien, Robert, vous faire couper les ongles. Quelle est cette mode neuve que vous avez de les porter si longs ?